Did you know you can listen to CIUT 5 different ways? Online, on satellite TV, digital cable, on FM radio, and on the go. Find CIUT online at iTunes Radio under Campus University, or go to the live stream at www.ciut.fm. You can also locate us on satellite at Star Choice Channel 826, Rogers Digital Cable Channel 946, and Bell 5 Channel 970. Listen to us on the go with TuneIn Radio's free app. And don't forget, we're on the FM dial at 89.5 FM. Spread the word. The evolution continues. CIUT 89.5 FM.
Want to learn French? Parlez-vous français? Join us every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. on CIUT 89.5 FM or live from our studio. Pocori Show targets student listeners who want to explore and travel through the Francophone world. Our show includes French lessons, news, reports from across the continent every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. on CIUT 89.5 FM. Our email address, pot.pori@sympatico.ca.
Écoutez la planète chanter.
Rappelle à ton souvenir.
Ay, maman, voilà le voile.
Adraben la cosa, ding-e-dong.
Ding-e-dong.
Écoutez la belle chanson.
La chorégraphe et danseuse torontoise présente la première mondiale de Cosmopolitan. Un spectacle de danse africaine, contemporaine, traditionnelle, avec percussion et musique live. Une toute nouvelle production, avec, bien sûr, notre invité dimanche prochain, Loua Chaen. Cosmopolitan sera présenté dans le cadre de Next Steps 2013-2014 Studio Theatre du Harbourfront Center du 29 au 31 mai 2014. Courez la chance de gagner une paire de billets pour le spectacle du jeudi 29 mai à 20h. Numéro à composer immédiatement 86 946 7000. Loua Chaen, dimanche prochain, dans le cadre de son spectacle Cosmopolitan. Spectacle de danse africaine contemporaine traditionnelle à ne pas rater. 86 946 7000. Et oui, mesdames, messieurs, la prochaine conférence AIDS 2014 sera en Australie, à Melbourne, qui accueillera cette année du 20 au 25 juillet la 20e conférence internationale sur le sida. Au cours de cette semaine, toute la communauté sida mondiale et des milliers de médias du monde entier auront les yeux rivés sur Melbourne. Découvrez les enjeux, les informations pertinentes à Popori Show chaque dimanche. Une présentation d'Action Positive Toronto et nos radios partenaires. Action Positive VIH-SIDA, un organisme à but non lucratif dédié exclusivement au soutien des personnes et des communautés d'expression française à Toronto qui vivent avec le VIH-SIDA. Impliquez-vous. www.actionpositivevihsida.org. Plus tôt on dépiste, plus vite on traite, plus rapidement on stoppe la chaîne de la transmission. Stop SIDA avec Action Positive Toronto et Popori Show sur CUT 89,5 FM Toronto. Vous écoutez Popori sur CUT 89,5 FM, le magazine de la francophonie en partenariat avec le département d'études françaises, Université de Toronto, le journal L'Express de Toronto et Radio France Internationale. «
de Cannes, Paris, Montréal, bienvenue à Toronto. DJ de Vera, Morgan Cott et au microphone Eric Adair sur www.cut.fm. Numéro à composer 86 946 7000. Bienvenue madame, monsieur, à votre magazine de la francophonie à l'Université de Toronto. Popourri Show vous souhaite la bienvenue où que vous soyez. En ce dimanche 18 mai, et afin de souligner la journée internationale contre l'homophobie, le 17 mai de chaque année, nous avons lancé un appel à collaboration et nous constatons que l'homophobie est encore malheureusement une triste réalité, toujours présente dans divers milieux à Toronto et dans le monde. Les messages reçus sont des fois très durs, mais à qui la faute? Qui doit surveiller les droits des victimes de l'homophobie? On en parle avec Gabrielle Loche, vice-présidente Franco-Queer Toronto. Nous ferons le constat et dégâts de l'homophobie au Canada, dans le monde, plus particulièrement en Afrique. Comment traite-t-on les bisexuels, les homosexuels, les lesbiennes, les personnes gays en général? Et enfin, j'aurai le plaisir de vous présenter quelques textes du poète et professeur émérite, grand ami de l'émission, à l'université York, le professeur Eddie Bouraoui, de son roman Nomadim aux éditions Le Greffe, Collège Glendon, paru en 1995. Nomadé, dit-il, sur l'arc-en-ciel des différences pour libérer les cœurs en attente. Et puis, de midi à 13h, nouvelle expérience à Holt Renfrew, ce grand magasin de luxe dans la région de Toronto, mais aussi un peu partout à travers le Canada. Après Paris, Monaco, Buenos Aires, Rio et Sao Paulo, l'exposition Lux Inside débutera sa tournée au Yorkdale Shopping Mall à Toronto du 22 mai au 16 juin. Et nous allons accueillir Laurence Picot, qui est la commissaire de cette exposition en direct qui nous attend en France. Et puis, rendez-vous incontournable pour les amoureux du cinéma. Le Festival de Cannes attire, comme vous le savez, chaque année les plus grands réalisateurs et acteurs du cinéma à travers le monde. Rendez-vous sur la croisette avec nos confrères Isabelle Chenoux et Anthony Ravera dans les studios de Radio France Internationale au Festival de Cannes. Et puis gagner des billets, si cela vous intéresse, à la première mondiale de Lua Shahen et Company, qui présente Cosmopolitan, un spectacle de danse africaine contemporaine traditionnelle avec percussion, musique live, une grande chorégraphie, grande production. Et nous avons une paire de billets ici pour vous pour le jeudi 29 mai prochain. Vous nous appelez tout au long de l'émission au 416 946 7000. Et je vous rappelle, pour ceux qui nous écoutent, qui veulent aller appuyer la communauté haïtienne dans le cadre de la semaine du patrimoine haïtien qui se poursuit, je vous rappelle, aujourd'hui. Eh bien, aujourd'hui, on va hisser le drapeau haïtien à l'hôtel de ville de Toronto. Vous pouvez téléphoner à notre collaborateur et partenaire Stanley Livallois, coordonnateur de la semaine du patrimoine haïtien, au 647-880-0661 ou encore www.unleashlegacies.co. Et oui, alors voilà, nous avons aussi, on me dit, peut-être une paire de billets pour le prochain film de sur Yves Saint-Laurent, ce grand couturier. Alors, on vous contactera si jamais on a une confirmation avant la fin de l'émission. La projection, c'est pour le samedi 31 mai au Tiff Bell Lightbox à 350 rue King West, dans le cadre du festival Gay Lesbian Inside Out.ca. Allez sur le lien et vous allez découvrir la programmation de ce festival. Pour nous joindre tout au long de l'émission, pot.pourri@sympatico.ca ou encore inscrivez-vous sur facebook.com/popourrishow. Ou sur Twitter, suivez-nous, @popourrishow. Numéro de téléphone, une fois de plus, 86 946 7000. Popourrishow, 27 ans déjà. Toute la diversité sur votre fréquence. Tu ne loueras pas ton appartement aux lesbiennes, dit un rabbin. Citerait le journal Jewish Daily Forward. Si les deux femmes veulent louer l'appartement ensemble, refuse. Si seulement l'une des deux veut le louer, tu peux accepter. Mais seulement si tu n'as pas de meilleure option. À l'occasion de la journée mondiale de lutte contre l'homophobie, la transphobie, plusieurs manifestations ont eu lieu un peu partout à travers le monde. Ici à Toronto, le maire adjoint Norm Kelly a organisé une cérémonie à l'hôtel de ville de Toronto et le drapeau arc-en-ciel géant a été déployé par les militants, les militantes de la communauté LGBT en présence de plusieurs conseillers de la ville de Toronto. Pour marquer la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a rappelé samedi que dans de nombreuses régions du monde, les lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexués font l'objet de discrimination, de stigmatisation et d'actes de violence. Trop d'enfants, dit-il, subissent des brimades de la part d'autres enfants, sont rejetés par leur famille et sont poussés à l'échec scolaire. Trop d'adultes sont stigmatisés, traités injustement et subissent des violences. Dans 76 pays, le fait d'avoir un partenaire du même sexe est une infraction pénale. Les gens sont arrêtés, emprisonnés et même dans certains cas exécutés pour entretenir des relations amoureuses, a déclaré Ban Ki-moon dans son message pour la journée internationale contre l'homophobie. Malheureusement, les personnes LGBT continuent de faire face à une hostilité profondément ancrée dans le lieu où de nombreux d'entre nous passent la majorité de notre temps, à savoir au travail.
Pourquoi je lutte contre l'homophobie ? Parce que j'aime l'amour sous toutes ses formes.
Je trouve ça vraiment impensable que les jeunes homosexuels puissent être victimes encore de discrimination et qu'on entende toutes ces horreurs qui se passent partout au monde. Donc je trouve ça tout à fait naturel et même humain de faire partie des gens justement qui se battent contre l'homophobie. En plus, c'est vrai que en tant que représentant de la communauté gay, je me sens encore deux fois plus impliqué dans la cause, et je trouve que c'est mon devoir de me battre contre l'homophobie.
Merci.
Merci.
Je t'écris des versets de confidence, lettres dépaysantes que tu ne liras jamais. Elles chantent en chœur la vie perfusée dans les ruptures de mes opacités. Dans le ciel brouillé, poivré de ton absence, tels étourneaux gazouillant les arbres de ma ville. À la tombée de la nuit, tu ne connaîtras jamais la rayonnante sagacité que ton silence mordore à satiété. Marqué par la genèse de feu, tu admires ces envolées qui incendient les ténèbres de ma mère espoir. Toi, hasardé entre doute et envie.
En grandissant, on m'a dit, voilà, toi, tu sortiras avec une fille. C'est ça que j'avais dans la tête. Je suis destiné à être avec une fille. À chaque fois qu'il y avait une amitié forte avec une fille, je me disais, voilà, c'est ça l'amour. Je suis amoureux de cette fille-là. Et j'en ai dragué plein de filles. À un moment, je disais même, si j'avais été un meilleur dragueur, peut-être que je ne me serais jamais dévoilé. Je sais que j'étais attiré par les garçons. C'était un truc que je ne pouvais pas le nier. Il y avait une vraie attirance sexuelle. Il me dit, si j'avais été un meilleur dragueur, si j'avais eu plus de succès avec les filles, j'aurais eu plus de mal à faire mon coming out. Parce que c'est pas facile de faire le coming out.
On a reçu une éducation en Afrique qui nous bloque quelquefois par rapport à notre orientation sexuelle. Je suis homosexuel entre guillemets parce que j'étais marié, j'ai une fille. Alors c'était beaucoup de doutes dans ma famille. C'était très difficile à l'école. C'est infernal, invivable dans mon quartier. Il y a eu beaucoup de détérioration de relations avec beaucoup de mes amis, des amis d'enfance, et c'est pas facile. C'est encore très difficile dans la famille, parce que je vis toujours en famille, mais ça ne m'a pas empêché d'évoluer. Dans la communauté gay en Afrique, plus de 80% sont bisexuels. C'est à la fois des hommes mariés, polygame quelquefois, et qui mène des relations homosexuelles de l'autre côté.
La bisexualité, pour des personnes avec lesquelles on travaille, est une réponse par rapport à la société. Parce que ce sont des personnes écartelées, ce sont des personnes sentimentalement partagées qui ont envie de vivre une chose, mais donc la société ne les permet pas de la vivre et tout. Par rapport à cela, ils sont obligés d'avoir des couvertures, ils sont obligés de pouvoir avoir une double vie en quelque sorte, ainsi de suite et tout. Donc cela est complètement compréhensible tout dans la mesure où on s'adapte par rapport à la société dans laquelle on vit, quoi.
Il y en a qui sont bisexuels parce que justement qui aiment à la fois les hommes et les femmes, puis d'autres qui sont avec des femmes pour des raisons de couverture. Ils sont les plus nombreux. Ils disent, voilà, c'est vrai, moi j'aime pas les femmes, j'aime les hommes, mais si jamais ma famille apprend que je couche avec des hommes, ça va être catastrophique pour moi. Et qui disent, voilà, si je dois me marier, je me marie. Voilà, j'aurai toujours un amant homme.
Nous sommes dans une société où on est très, très... très famille, très sociale, très... En tout cas, il faut savoir le fils de tel, qu'est-ce qu'il est devenu, et c'est toute la famille. La réputation est très importante chez nous. La réputation familiale. Et ça, c'est des choses qui fait que les gens sont obligés de se marier et avoir une double vie, en fait. C'est qui ne doit pas être facile.
Il y a même des gens, des familles où on te dit, oui, on accepte ton orientation, mais quand même, il faut prendre une femme à côté parce que ça ferait bien que tu aies une femme et tout. Donc, plusieurs sont obligés de se marier, soit d'avoir des copines, soit d'avoir des relations avec des femmes pour essayer de voiler les yeux des uns et des autres et d'être perçus, entre guillemets, comme c'est tout le monde, quoi.
Le danger, c'est au niveau de la transmission du VIH-Sida. Parce que quand les personnes vivent avec dans un couple hétérosexuel et qu'ils ont en même temps des doubles vies à côté des vies des relations homosexuelles et tout, il arrive généralement, on se protège pas tout le temps avec sa femme. On est obligé de vivre normalement parce qu'il y a un besoin de procréation, ainsi de suite et tout. Donc, et dans la mesure où on a une double vie, cela peut très bien infecter la femme qui n'a rien demandé pour cela.
La prévalence dans la population générale, c'est 0,7%. Et dans la communauté gay au Sénégal, c'est 21,8%. C'est un taux assez élevé quand même. Assez élevé, c'est un taux qui interpelle. Et quand on lit le VIH à la bisexualité, le taux de bisexuel est très élevé aussi au Sénégal, ce que les gens ignorent encore, d'où la transmission peut se faire de la population homosexuelle à la population générale, comme de la population générale à la population homosexuelle.
Nous devons arrêter d'être hypocrites. Moi, je suis une mère, j'ai deux garçons. Je le dis souvent, en tant que mère, mon vœu le plus cher, c'est d'être grand-mère. Ça veut dire que j'aimerais les voir mariés et avoir des enfants. Sauf que tout ça, c'est vraiment Dieu qui le décide. Même s'ils sont mariés, je ne suis pas sûre que j'aurai des petits-enfants. Je le souhaite et je pense que je les aurai. Mais après... Ce que je suis en train de dire mes vœux à moi. Est-ce que ce sont les vœux à mes fils? Il faut qu'on arrive à comprendre. Il y a des choses que moi je voudrais et ce que eux ils veulent. Mais si on aime quelqu'un, on accepte ce qui lui rend heureux.
Le 21 juin. Le 21 juin.
Yay! Spring is finally here, and to welcome in this long-awaited gift from Mother Nature, Steve's will be offering 10% off guitar setups and amp tune-ups right through to the end of spring. So, come on down to Steve's service department and tell Eric that Jessica sent you, because there's nothing I like better than bending a new G-string. Maybe I'll see you later.
415 Queen West, stagemusic.com.
The evolution continues. CIUT 89.5, Toronto.
Vous écoutez Popourri sur CUT 89,5 FM, le magazine de la francophonie en partenariat avec le département d'études françaises, Université de Toronto, le journal L'Express de Toronto et Radio France Internationale.
Maintenant, donc je pense que nous avons perdu assez de temps. Je t'aime, tu m'aimes, pour moi c'est évident. Sauf le préservatif et prenons du bon temps. Laisse-moi dire dès que je m'approche de toi.
N'y pense même pas.
Fais-moi confiance, abandonne-toi.
Et oui, mesdames, messieurs, la prochaine conférence AIDS 2014 sera en Australie, à Melbourne, qui accueillera cette année du 20 au 25 juillet la 20e conférence internationale sur le sida. Au cours de cette semaine, toute la communauté sida mondiale et des milliers de médias du monde entier auront les yeux rivés sur Melbourne. Découvrez les enjeux, les informations pertinentes à Popourri Show chaque dimanche. Une présentation d'Action Positive Toronto et nos radios partenaires. Action Positive, VIH-Sida, un organisme à but non lucratif dédié exclusivement au soutien des personnes et des communautés d'expression française à Toronto qui vivent avec le VIH-Sida. Impliquez-vous. www.actionpositivevihsida.org. Plus tôt on dépiste, plus vite on traite, plus rapidement on stoppe la chaîne de la transmission. Stop Sida avec Action Positive Toronto et Popourri Show sur CUT 89,5 FM Toronto. Afin de souligner la journée internationale contre l'homophobie, le 17 mai de chaque année, nous avons lancé un appel à collaboration et nous constatons que l'homophobie est encore, malheureusement, une triste réalité toujours présente dans divers milieux, y compris à Toronto. Nous avons reçu des messages à choc presque, mais à qui la faute? Qui doit surveiller les droits des victimes de l'homophobie? On en parle avec Gabrielle Loche, vice-présidente à Franco-Cuir, dans un instant. Et nous ferons aussi tout au long de cette émission le constat et les dégâts de l'homophobie au Canada et dans le monde, plus particulièrement dans le monde de l'éducation. Et j'aurai le plaisir tout au long de cette émission de vous présenter quelques textes du poète professeur émérite de l'Université de Toronto, Eddie Bouraoui, de son roman Nomadim aux éditions Le Greffe, Collège Glendon, paru en 1995. Nomadé sur l'arc-en-ciel des différences pour libérer les cœurs en attente. Et oui, que se passe-t-il dans nos écoles au Canada? Si l'école et le lieu de travail sont réputés sans danger, au moins un jeune étudiant sur trois a signalé avoir été déjà victime d'intimidation et 40% des travailleurs canadiens en ont également fait l'objet semaine après semaine. Le harcèlement à répétition sous forme de moqueries, d'injures, de coups, de rumeurs malveillantes influe sur la santé physique et mentale à long terme. Il peut mener à de l'anxiété, à la dépression, voire au suicide dans certains cas. Mais bien que l'intimidation soit un problème de société qui touche tout le monde, certains jeunes sont plus vulnérables que d'autres. En 2008, un rapport de Statistique Canada révélait que le taux de discrimination chez les élèves qui s'identifient comme lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres ou personnes bispirituel, allosexuel ou en questionnement, est trois fois plus élevé que chez les jeunes hétérosexuels. On sait également que LGBTQ dans les écoles sont plus souvent victimes de violences, par exemple de viols, de vols et d'agressions. La Fédération canadienne des enseignantes et enseignants travaille actuellement au développement d'une liste de ressources et de matériel de formation qui pourra servir à travers le Canada à rendre le milieu scolaire plus réconfortant pour les jeunes gays, lesbiennes, bisexuels et transgenres. Quelques nouvelles de la France.
L'année 2013 fut paradoxale pour les homosexuels. Ce fut celle d'une avancée historique avec le vote de la loi leur ouvrant mariage et adoption. Avec plus de 7000 mariages à célébrer sans incident en 2013, elle semble déjà être rentrée dans les mœurs. En même temps, une recrudescence inattendue de l'homophobie en parole et en actes a eu lieu. Cette réalité sensible pour les personnes concernées, qui ont souvent très mal vécu l'intense débat autour du mariage pour tous, est confirmée par le rapport annuel de l'association SOS Homophobie publié mardi 13 mai dernier. Le nombre de témoignages reçus atteint un record. Et oui, le nombre d'agressions physiques rapportées a doublé pour atteindre 188 cas, soit à peu près un cas tous les deux jours. Et puis je vous rappelle, dans côté livre, dans ses romans destinés aux jeunes de 14 ans et plus, l'auteur Marie Gay du Québec aborde des problématiques délicates comme la sexualité, l'homophobie, l'intimidation et le suicide. Un travail qui permet d'être en contact avec des jeunes et parfois recevoir leurs confidences. Elle ajoute sa voix dans le cadre de la campagne « Le suicide n'est pas une option », initiative de l'Association québécoise de prévention de suicide avec le soutien de l'Ordre des psychologues du Québec. Marie Gay est porte-voix du projet « Ajoutez ma voix ». Vous pouvez aller sur www.ajoutemavoix.com. En Haïti, en marge des manifestations homophobes à l'appel de groupes évangélistes dans la capitale Port-au-Prince, deux personnes suspectées d'être homosexuelles ont été tuées. Cette violence caractérisée met en lumière le danger encouru lorsque l'on veut vivre sa différence en Haïti. Dans un pays encore marqué par l'extrême pauvreté, les LGBT sont les premières victimes de la virulence de l'Église chrétienne protestante à l'encontre des lesbiennes et des gays haïtiens. En Afrique du Sud, les femmes lesbiennes sont victimes d'une homophobie redoutable, souvent soldée par des viols, d'une brutalité extrême. Des dizaines de viols dits correctifs se produisent chaque semaine dans la seule région de Johannesburg. 31 femmes ont été violées puis assassinées depuis 2006 dans des conditions particulièrement atroces. Le Cameroun, un des pays qui pénalise le plus lourdement l'homosexualité en Afrique, avec des conséquences catastrophiques pour la communauté homosexuelle en termes de discrimination et de vulnérabilité au VIH-SIDA. Dans un film réalisé par des militants Africa Gay contre le sida issus de ce pays, évoque des violations des droits et de leurs conséquences en termes de santé publique.
Quand j'étais petit, mon père me prenait dans ses bras, il jouait avec moi et moi, je voyais sa joie, il disait que j'étais son fils, sa fierté forcément, que j'étais le plus beau des enfants. À 3 ans, j'ai eu ma première moto électrique, téléguidée, je jouais aussi à l'élastique. Quand j'étais petit, je crois que je voulais être acteur, cascadeur, et comme j'aime aider les autres docteurs, maman m'enseignait la cuisine, pensait mes blessures, émerveillait ma routine, sa tendresse, sa gentillesse et sa patience. Elle m'a rendu fort, elle m'a donné confiance et puis j'ai grandi. Adolescent, j'ai découvert la vie incandescente, l'école, les amis. J'ai vu que les coupables ne payaient pas toujours leurs fautes. J'ai compris qu'on apprenait la différence dans le regard des autres, que les chances n'étaient pas réparties pareil pour tous. Moi le dimanche, jogging avec mon père, on faisait la course. Repas de famille avec les cousins et cousines et le vieux tonton qui nous parlait de son
usine. C'est mon coming out, je sors du silence. Je n'ai plus de doute, j'ai choisi ma danse, j'ai choisi ma route. C'est mon coming out, c'est ma révolution. C'est mon coming out, je sors du silence. Je n'ai plus de doute, j'ai choisi ma danse, j'ai choisi ma route. C'est mon évolution, c'est ma révolution.
On a peur de ce que l'on ne comprend pas. On se fait juger, on se donne tous les droits. On jette à la rue des enfants à cause de ça, car c'est comme ça qu'ils appellent ça. Ça crée des cassures entre les familles, ça crée des blessures, on devient étranger entre amis. Alors j'ai la trouille, car le monde part en couille, et c'est peu de le dire, le sujet rend fou. Quand on est jeune, ils disent qu'on perd nos repères, ça se traduit par l'échec scolaire, la colère, et on ne veut pas de toi. Mais aujourd'hui j'ai fait mon choix, et ce message il est pour toi qui n'assume pas. Peu importe vos opinions, peu importe votre incompréhension, c'est ma vie, elle m'appartient, c'est mon coming out, c'est ma révolution, et ça rime avec évolution. Alors prends cette chanson et porte-la comme un étendard pour libérer ta voix et te faire entendre sous ce drôle de ciel. Papa, maman, je suis homosexuel, et c'est pas une maladie ni une anomalie, mais c'est ma vie, c'est mon droit.
coming out. Je sors du silence. Je n'ai plus de doute. J'ai choisi ma danse. J'ai choisi ma route. C'est mon coming out. C'est ma révolution. C'est mon coming out. Je sors du silence. Je n'ai plus de doute. J'ai choisi ma danse. J'ai choisi ma route. C'est mon évolution. C'est ma révolution.
C'est mon coming out. Papa, maman, vous m'avez élevé dans l'amour, je sais, et je vous en suis reconnaissant, éternellement. Si votre sexualité vous appartient, alors la mienne aussi m'appartient. Papa, maman, c'est ma révolution. J'ai choisi ma danse, j'ai choisi ma route, j'ai choisi de quitter le silence.
C'est mon coming out, je sors du silence. Je n'ai plus de doute, j'ai choisi ma danse, j'ai choisi ma route. C'est mon coming out, c'est ma révolution. C'est mon coming out, je sors du silence. Je n'ai plus de doute, j'ai choisi ma danse, j'ai choisi ma route. C'est mon évolution, c'est ma révolution.
Vous écoutez Popourri Show, CUT 89,5 FM, la radio de l'Université de Toronto avec DJ Devera, Morgan Cotte et Eric Kader. Pour nous joindre, 86 946 7000. Suite à l'appel lancé aux auditeurs, nous constatons que l'homophobie est encore une triste réalité toujours présente dans divers milieux à Toronto, mais aussi partout à travers le monde. C'est dommage. Les messages reçus sont des fois très durs. Par exemple, une personne nous écrit, et je cite, les préjugés contre les homosexuels perdurent. L'homosexualité a été un crime, puis un péché, une maladie. Dans les écoles, l'homosexualité est honteuse. Les enseignants, les enseignantes par exemple, ne reçoivent pas de formation pour intervenir contre les actes homophobes. C'est très bon qu'il y ait une journée internationale pour sensibiliser. L'homophobie reste un problème de société énorme. Il y a encore l'illusion que maintiennent les gays, ont obtenu certains droits, et oui, pour répondre à cette réalité, des organismes comme Franco Queer sont nés pour rassembler et représenter la communauté francophone LGBT de la région de Toronto. Et briser l'isolement, c'est une des priorités de Franco Queer, mais l'organisme est aussi très préoccupé par son devoir d'information et de sensibilisation de la communauté à l'homophobie. Plus d'informations d'ailleurs sur leur site www.francoqueer.ca. Pour lutter contre l'homophobie, la prévention est incontournable. Notre prochain invité se sent particulièrement impliqué dans cette question. Mesdames, messieurs, accueillons la vice-présidente de Franco Queer Toronto, Gabrielle Loche. Bonjour Gabrielle.
Bonjour.
Et merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est pas trop difficile pour vous d'être des nôtres ce matin, je l'espère.
Absolument pas, c'est un plaisir.
Et est-ce que le message passe depuis 11 heures? Oui.
Ça passe très bien.
On ne choque pas tellement les cœurs sensibles, j'espère.
Mais ça fait mal au cœur d'entendre tout ce qui se passe dans le monde. Et en particulier à Franco Queer, on est très proche de ces histoires-là qui viennent d'ailleurs. Parce que nous avons commencé, ou on nous contacte, lorsque des personnes viennent de certains pays, en particulier d'Afrique, pour se réfugier au Canada. Donc nous sommes là pour les accueillir. Ces personnes nous contactent parce qu'elles ont entendu parler de Franco Queer dans leur pays. Et on est en quelque sorte leur seule bouée de sauvetage. Et donc ces histoires-là sont très difficiles à écouter, particulièrement, comme vous l'avez mentionné auparavant dans l'émission d'aujourd'hui, quand il s'agit par exemple de viols correctifs par rapport, enfin, pour les femmes qui sont homosexuelles.
C'est dur ça, hein? C'est dur à comprendre cette réalité. Je sais qu'il y a des Canadiens, des Canadiennes qui nous écoutent, qui trouvent qu'on n'a pas assez de gains encore pour s'afficher, parce qu'il y a cette crainte de perdre leur emploi, de se faire stigmatisé, n'est-ce pas? Mais notre vie n'est quand même pas en danger. On ne mérite pas la mort encore au Canada parce qu'on est homosexuel, parce qu'on s'affiche. Enfin, je ne l'ai pas entendu encore récemment.
Oui, c'est vrai, mais je connais également des personnes qui se cachent parce que, effectivement, malgré la charte canadienne, il y a des moqueries, une espèce d'isolement pour les personnes qui se déclareraient dans des milieux très professionnels.
Oui.
Qui malgré leur manuel de conduite à l'intérieur de ces corporations, ne respectent pas les droits.
Mais avez-vous d'ailleurs des statistiques sur l'état des lieux, sur la situation des membres de la communauté LGBT francophone dans la région de Toronto? J'ai entendu parler d'un de vos membres qui fait peut-être un genre d'étude sur les minorités raciales qui arrivent à Toronto, parce que c'est un vrai problème et casse-tête aussi pour offrir des services des fois dans certains milieux, pour offrir que ce soit des services au point de vue santé, mais au niveau des personnes gays, homosexuelles et surtout des gens qui ont été discriminés, est-ce que Franco Queer est au courant sur quelques chiffres ou encore des statistiques qui existent peut-être quelque part?
Justement, c'est difficile parce que beaucoup de gens se cachent, donc les statistiques sont plutôt des évaluations, et les évaluations évidemment sont un petit peu des spéculations également, et pour cela, donc Franco Queer s'est tourné vers le ministère des Affaires civiques et de l'immigration, et a créé un partenariat avec OCACI qui s'occupe notamment des immigrants au Canada, et nous avons donc un projet qui est financé par le MACI, donc le ministère, pour faire une recherche particulièrement sur la population des nouveaux immigrants LGBTQ d'expression française au Canada, enfin en Ontario, et possiblement s'ils émigrent de l'Ontario au Canada. Mais cette recherche est particulièrement centrée sur ces arrivants ici en Ontario. Et quel genre de services reçoivent-ils qui sont sensibilisés à leur orientation? Il n'y en a pas.
Je rappelle que Franco Queer existe quoi, depuis 6 ans environ?
Nous sommes, oui, incorporés depuis 2006. Donc un peu plus de 6 ans quand même.
Mais d'ailleurs, vous pouvez aller sur leur site très bien, qui détaille très bien les services que vous offrez, mais aussi les différents projets, des articles de journaux, des contacts, des cérémonies, des événements, www.francoqueer.ca pour tout savoir. Et comment ça s'est déroulé pour vous, pour les membres de votre association, cette journée internationale contre l'homophobie hier à Toronto?
Ce qui se passe pour nous, c'est qu'en fait, nous sommes vraiment très occupés à préparer la fierté mondiale, étant donné que nous sommes ici en Ontario la seule association qui représente donc les LGBTQI et leurs amis et alliés francophones. Et on a toute une panoplie d'activités, ça va être vraiment quelque chose, la plus grande fierté qu'on ait eue jusqu'à présent. Et c'est comme ça que nous fêtons la journée de l'homophobie. C'est en allant de l'avant et en nous investissant de plus en plus dans la visibilité.
Et d'ailleurs, chaque année de cette grande marche Fierté Gay, Gay Pride, qu'on appelle ici à Toronto, vous avez maintenant des kiosques en partenariat avec plusieurs associations communautaires, n'est-ce pas? Il y a même des ministères du gouvernement de l'Ontario qui y participent maintenant. Et d'ailleurs, vous cherchez toujours des bénévoles, je pense.
On cherche des bénévoles. tout le monde cherche des bénévoles. Oui, absolument. Et merci de relancer ce message. Ils peuvent nous contacter en passant par le site francoqueer.ca. Mais je veux vraiment souligner que cette année, on fait un effort particulier parce qu'on attend quand même à peu près 3-4 millions de plus de personnes, étant donné que c'est mondial. Et qu'on s'associe régulièrement également avec Pride House. Donc, on a beaucoup avancé depuis l'année dernière, cette année, en tant que visibilité et revendication des droits. Et je voudrais souligner que ce qui est important avec la lutte contre l'homophobie, ce n'est pas particulièrement l'homophobie, mais en fait, ce sont les relations humaines. Parce que dans ce que vous disiez auparavant dans cette émission, c'est en Afrique du Sud, si les femmes sont sous la suspicion d'être lesbiennes simplement parce qu'elles ont une relation amicale, elles risquent de ne m'aime plus d'avoir ces relations-là. Et c'est la même chose pour les hommes. Donc, ça vraiment rend très rigide les relations humaines, qu'elles soient homosexuelles ou pas. Donc, ça attaque toute la fibre des relations humaines, quelles qu'elles soient.
Oui. Et des chiffres quand même assez alarmants de la France, hein. C'est quand même quelque chose, ce qui se passe, surtout après ces débats houleux sur le mariage pour tous. On doit quand même s'intéresser de ce qui se passe en Europe et surtout particulièrement en France, n'est-ce pas?
Oui, et puis c'est étonnant quand même, quand on regarde dans quel siècle on vit, de voir que les pays industrialisés sont quand même... divisé et puis quand même en retard. Et c'est la même chose pour le Canada. C'est toujours la séparation un petit peu des politiques du gouvernement et de la pensée du public. Des fois, ça ne connecte pas du tout. Par exemple, le public russe est beaucoup plus ouvert à voter pour Conchita Wurst, alors que le gouvernement est totalement contre tout ce qui n'est pas hétérosexuel.
Exactement, ça c'était vraiment, je ne sais pas si parce qu'il chante très bien ou c'était coup de nez peut-être à certaines administrations européennes et entre autres directement ça visait Monsieur Poutine, n'est-ce pas?
Oui, alors c'est la même chose, on peut voir cette séparation ici au Canada également, oui. Parce qu'on a la charte qui nous aide légalement à revendiquer nos droits, mais cependant dans la population il y a toujours cette résistance ou ce manque de compréhension.
Alors, comme on le sait, il y a malheureusement une montée de vagues de nationalisme, d'affirmations agressives des régimes les plus autoritaires un peu partout au monde, mais aussi en Afrique, en Ouganda en particulier. Mais j'aimerais terminer cet entretien pour voir un peu la position de Franco Queer, que ce soit votre position personnelle ou de votre groupe, sur ces propos du maire de la ville de Toronto sur ces délires, propos offensants, diffamatoires envers les gays, les lesbiennes, vous savez, dans plusieurs vidéos parues dans les journaux, les grands quotidiens à Toronto récemment. Et on peut aussi parler de ce fameux magnat de la NBA aux États-Unis, la façon dont il traite les gens qui sont atteints du VIH, du sida. D'ailleurs, il ne peut pas faire la différence. Comment expliquer le silence de Franco Queer? Parce que ce soit Franco Queer ou d'autres associations qui militent pour les droits de la communauté LGBT à Toronto, tout ça est passé sous silence.
C'est-à-dire, premièrement, on ne peut pas réagir à tout, mais... la façon dont nous réagissons à Franco Queer, c'est que nous allons de l'avant et nous restons positifs et nous travaillons sur la visibilité et les droits. Nous faisons également du lobby, puisque nous travaillons sur ces statistiques en particulier en ce qui concerne les services français particuliers à offrir aux nouveaux immigrants LGBT. Donc c'est ça notre action, c'est que nous allons de l'avant en travaillant à envoyer notre message plutôt qu'à répondre toujours à tous les messages négatifs.
Alors, je vous remercie infiniment. Je rappelle aux gens que les gens peuvent aller sur votre site www.francoqueer.ca. Il y a aussi, vous allez participer dans ce festival de films LGBT Inside Out à Toronto qui commence avec ce magnifique film qui est d'ailleurs dans la distribution au Festival de Cannes de cette année. C'est bien sûr le grand couturier Yves Saint-Laurent. Et merci pour les billets. Les gens peuvent nous appeler s'ils veulent nous accompagner, vous accompagner pour aller voir ce petit chef-d'œuvre le samedi 31 mai, je pense, n'est-ce pas?
Oui, c'est cela, 31 mai à 19h. Merci infiniment de nous avoir donné ce petit...
Nous avons reçu beaucoup de messages à Gabrielle Loche, madame, monsieur, qui est la vice-présidente de Franco Queer à Toronto. Un message, tenez-vous bien, de Marie-Françoise qui nous écrit de Royan et qui nous dit « Si Adam avait été homosexuel, personne ne serait là pour le dire. » Au revoir.
Merci.
Sans jamais mentir, ni se retourner, ils se font confiance. Si vous saviez comme ils se foutent de nos injures, ils préfèrent leur bouche, tout le vrai à nos murmures.
L'arme à t'aimer, cet arc-en-ciel de ton regard, où je m'assource, moi l'assoiffé des hautes luttes. Te voici éclose après l'orage, et je m'hypnotise à t'idéaliser, tendre, senteur qui m'enivre, moi le sobre des sentiers. Je me blottis dans tes astres et je me retrouve cette jouissance indicible de l'enfant qu'en rêve de revivre la naissance. La naissance dans l'éveil de ta peau. Elle satine le désir du créant. Mes doigts cajoleurs magnifient la fête. Nos corps se diapasonnent. Fugue d'espérance dans l'éclair de l'imminent. Texte d'Eddy Bouraoui de son roman Nomadim. Nomader sur l'arc-en-ciel des différences pour libérer l'amour dans les cœurs en attente. Merci au professeur Eddy Bouraoui.
A6 Prod Melodic Records. La tête dans l'arc-en-ciel, un. Rouge pour la vie, orange pour la guérison, jaune pour le soleil, vert pour la nature, bleu pour l'harmonie, violet pour l'esprit communauté. Ainsi s'est créée une immense fierté, un peuple soudé par la fraternité. De l'eau propos nous ont touchés, mais rien ne nous empêchera de lutter. Non, rien ne nous empêchera de lutter. Ce sont je dédicace à tous les LGBT. Ah ouais, il serait temps qu'on ouvre les yeux, putain. Ça fait mal de voir tout ça. Accepter la différence pour mieux vivre.
accepter, merde. J'ai pris le mic pour qu'on se mette d'accord de vous avoir. Je vois qu'un nous l'esprit, nos désaccords se jugent. Et encore moins se foutent dehors pour une histoire de race, de sexe ou de religion, d'accord. Les discriminations d'or. Ce texte, c'est sur un peuple qui en aucun cas a tort. Un peuple libre, égaux en droit d'après les droits de l'homme. D'après les droits de l'homme. Une vague d'amour, une marée de sentiments. L'amour qu'on porte à celle qu'on aime, telle une mère à ses enfants. Un quotidien illuminé par les couleurs de l'arc-en-ciel. Du bonheur à foison et cette sincérité que je t'aime. C'est comme une figure dans les veines. L'instant présent se révèle être une dépendance. Parce qu'il suffit d'un regard pour habiller la romance. Et plus ça dure, plus ça recommence. Y'a cette sincérité qui donne envie d'arrêter le temps. De faire taire les gens qui parlent en critiquant. Sexe double F, une meuf avec une meuf. Et fait un peu complexe qui, de nos jours, font foison. Donner les bluffs, trop peu l'accepte, mais veut le contraire. C'est pas une maladie, simplement une histoire qui de sentiments est pleine. Sexe double M, max et deux gars qui s'aiment. Aucun mytho, juste des doux mots, pas de relation partielle. Une vérité subsistentielle, je crache pas ces mots pour faire jaillir mes poèmes. Je veux juste que les gens comprennent et qu'ils ne nous prennent pas pour ce qu'on est loin d'être. Pour ce qu'on est loin d'être. Rouge pour la vie, orange pour la guérison, jaune pour le soleil. Pour la nature bleue, pour l'harmonie violette, pour l'esprit communauté. Ainsi s'est créée une immense fierté, un peuple soudé par la fraternité. De longs propos nous ont touchés, mais rien ne nous empêchera de lutter. Non, rien ne nous empêchera de lutter. Les homophobes se brochent les hommes et là commence une guerre. N'est un effet de mode pour tous nous faire tomber à terre. Vous savez pas qu'on est loin des faits. Vous avez tué nos frères, mais rappelez-vous qu'un jour vous tomberez face à Lucifer. Trop de frères meurent, trop de sœurs pleurent. Trop sont décédés pour une histoire de cœur. L'homosexuel a tort, qui a dit ça? Moi je veux les droits d'auteur. Notre peuple tombe comme des mouches. Depuis des années c'est génocide et pratiquement personne n'ouvre sa bouche. J'appelle à résister, j'appelle à être soudé. J'appelle à défiler pour grandir notre quartier. J'appelle à assumer, j'appelle à respecter. J'appelle à dire tout haut que les homos cesseront de lutter. Écoutez-moi, NDEP dénonce les faits d'une société ratée. Des discriminations, des illusions, des meurtres, des collisions. Pour en effet y constater que rien ne fait bouger les opinions. Ouvrez les yeux tant que c'est encore possible. Le sexe, la religion sont bien trop pris pour cible. Lâchez vos convictions, fond d'une même nation, fond d'un même monde. Rouge pour la vie, orange pour la guérison, jaune pour le soleil. Vert pour la nature, bleu pour l'harmonie, violet pour l'esprit communauté. Ainsi s'est créée une immense fierté, un peuple soudé par la fraternité. De longs propos nous ont touchés, mais rien ne nous empêchera de lutter. Non, rien ne nous empêchera de lutter. Rouge pour la vie, orange pour la guérison, jaune pour le soleil. Vert pour la nature, bleu pour l'harmonie, violet pour l'esprit communauté. Ainsi s'est créée une immense fierté, un peuple soudé par la fraternité. De longs propos nous ont touchés, mais rien ne nous empêchera de lutter. Non, rien ne nous empêchera de lutter. Rouge pour la vie, orange pour la guérison, jaune pour le soleil, vert pour la nature, bleu pour l'harmonie, violet pour l'esprit communauté. Ainsi s'est créée une immense fierté, un peuple soudé par la fraternité. De longs propos nous ont touchés, mais rien ne nous empêchera de lutter. Non, rien ne nous empêchera de lutter.
Vous écoutez Popourri Show, CUT 89,5 FM, votre magazine de la francophonie au département d'études françaises, Université de Toronto. Plusieurs messages d'intérêt à cette émission. Je lis ici un monsieur qui nous dit que cette journée soit une journée sans frontières. L'orientation sexuelle, l'identité de genre n'ont pas de couleur de peau. Elles n'ont pas d'origine ethnique ou raciale. Elles n'ont pas de culture, de religion prédéterminée. Chaque communauté, chaque population, chaque nation à la surface de notre planète en connaît la pluralité et devrait la respecter. À Paris, comme à Yaoundé, à Cayenne, comme à Kampala, à Lille, comme à Harare. Eh oui, c'était une émission spéciale, madame, monsieur, dans le cadre de la journée contre l'homophobie. Proposé et réalisé par Eric Kader et son équipe. Merci au professeur Elie Bouraoui pour ses textes et merci à la participation de Gabriel Lanchard de Francopuir. On se donne rendez-vous pour une autre émission spéciale à l'année prochaine.
des amis hollandais. J'ai des amis javanais.
J'avoue, j'en ai pas des pas fous.
J'ai des amis au Portugal.
Hola,
j'ai des amis au Sénégal.
Du côté de l'Oumoué.
J'ai des amis dans les villes.
Allez les gars, à votre.
J'ai des amis dans les villes.
Anti-goût de miel, anti-goût de fiel.
J'ai des amis proches ou lointains. J'ai des amis dans tous les coins.
Hello. Bonjour.
Tant que la terre sera ronde, j'irai où?
Ici.
Tour du monde.
Là-bas.
Voir d'autres êtres humains.
Ailleurs.
Become a member of CIUT 89.5 FM by donating $25 or more before May 23rd, and you will be entered into all of our amazing grand prize draws. You could win a getaway for two to Foxwood Resort in Muskoka, two nights in a private cottage with full use of the facilities, a Samsung Galaxy Mega, a KHS Green 8 bicycle from Urbane Cyclist, a movie lovers package that includes 10 tickets for the TIFF Bell Lightbox, and a one-year VIP pass at Carlton Cinema, which includes unlimited movies for two people. And a Native Instruments S2 DJ set from Steve's Music. Go to www.ciut.fm to donate or call 416-946-7800.
Equalizing the Start.
Punk.
Probably hardcore. Every Sunday night.
Ah! Go!
Starting at 10
on CIUT.
The X is silent.
For 17 years, Urbane Cyclist has been Toronto's destination for all cycling needs. Whether you want to commute or take a trip, our staff can help at 180 John, just north of Queen.
Right here, right now, every day. CIUT 89.5, the sound of your city.
Et voilà, messieurs, je vous rappelle que dans quelques minutes, nous serons sur la croisette avec nos confrères de Radio France Internationale, Isabelle Chenoux et Anthony Ravara, ne pas rater, pour tout savoir sur les dernières nouvelles de Cannes. Et bien sûr, nous allons aussi parler avec notre invité qui nous attend en France, Laurence Picot, commissaire de l'exposition Lux Inside, qui débutera sa tournée à Yorkdale Shopping Mall, dans le grand prestigieux magasin Holt Renfrew, madame, monsieur. À partir du 22 mai jusqu'au 16 juin, à ne pas rater dans la deuxième heure. Mais pour tout de suite, le point de l'actualité avec Radio France Internationale.
Jean-Baptiste Marot.
Bonsoir à tous. Le Nigeria et ses voisins adoptent un plan de guerre contre Boko Haram. 5 chefs d'État africains se sont retrouvés ce samedi à l'Élysée, à Paris, à l'invitation de François Hollande. Ils ont adopté un plan régional de lutte contre la secte islamiste qui a enlevé plus de 200 lycéennes dans le nord-est du Nigeria le mois dernier. Plan qui prévoit concrètement la mise en place de patrouilles coordonnées de différents mécanismes de surveillance des frontières, mais aussi un partage du renseignement et un échange des informations sur les trafics d'armes. Pas question en revanche de déployer des militaires français au Nigeria, a précisé un peu plus tard François Hollande dans une interview accordée à nos confrères de France 24 et de TV5 Monde. En Crimée, l'ex-province ukrainienne rattachée en mars à la Russie, la communauté tatare commémore ce dimanche les 70 ans de sa déportation par Staline. Contrairement aux autres années pourtant, le traditionnel rassemblement qui avait lieu à Simferopol pour cet anniversaire n'aura pas lieu. L'assemblée des tatars de Crimée a préféré l'annuler après la publication d'un décret des autorités. Décret qui interdit jusqu'au 6 juin toute action de masse dans la péninsule par crainte de provocation. En Libye, le bilan des combats qui ont opposé vendredi à Benghazi et des milices islamistes à un groupe paramilitaire s'alourdit. Il s'élève désormais à 79 morts et 141 blessés. Hier, le chef du groupe paramilitaire Khalifa Haftar, un général à la retraite qui a combattu le régime Kadhafi, a affirmé sa détermination à poursuivre l'offensive. Une initiative que désapprouvent les autorités de Tripoli. Elle l'assimile à un coup d'État. L'arrestation de l'une des principales figures de l'opposition au Soudan, Sadek al-Mahdi, le leader du parti Oumma, a été arrêté hier à son domicile de Khartoum. Son interpellation intervient alors qu'il accuse les Rapid Support Forces, une unité paramilitaire, d'avoir commis des viols et des exactions au Darfour. une région de l'ouest du pays en proie à un violent conflit depuis 2003. Les Grecs sont appelés aux urnes ce dimanche, premier tour des élections municipales et régionales, un scrutin qui fait figure de test pour la coalition entre la droite et les socialistes actuellement au pouvoir, et ce à une semaine tout juste des élections européennes. Un mot du festival de Cannes, ou plutôt de ses à côté, avec la projection ce samedi soir en première mondiale du sulfureux Welcome to New York, le film d'Abel Ferrara inspiré de l'affaire DSK. Le long métrage ne fait pas partie de la sélection officielle, mais ses producteurs ont organisé une séance dans un cinéma de quartier pour profiter du buzz. Et puis un mot de football, 38e et dernière journée de Ligue 1 hier soir, à retenir notamment la qualification de Lille pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions. Lille qui finit 3e au classement grâce à sa victoire à Lorient 3-1. Dans le bas du tableau, c'est finalement Sochaux qui accompagnera Ajaccio et Valenciennes en Ligue 2. Les Sochaliens qui se sont lourdement inclinés contre Evian Thonon 3-0.
La Radio Mondiale. Il y a ce que vous écoutez sur la Radio Mondiale et il y a ce que vous écoutez ailleurs, mais qui passe aussi par RFI. Car sur les 5 continents, plus de 600 radios programment des émissions ou des musiques réalisées, concoctées, sélectionnées par l'équipe de la production musicale. Il s'agit en fait d'un formidable courant d'échange entre RFI et ses radios partenaires. C'est tel groupe angolais dont la cassette nous est envoyée par Radio Luanda et dont les meilleurs extraits vont repartir via RFI vers le Chili, le Vietnam, les États-Unis. C'est aussi cet invraisemblable joueur de vielle que nous envoie Radio France Puy-de-Dôme et que l'on va écouter à Lima, Jakarta ou Kampala. Chaque mois, 8 programmes musicaux sont proposés aux radios du monde entier. Beaucoup de chansons françaises, bien sûr, mais aussi un hit parade européen, une sélection de musique tropicale, du jazz, du classique, de la musique traditionnelle et parfois de la salsa.
De retour avec Popourri Show au Hard House Studio, CUT 89,5 FM, département d'études françaises, Université de Toronto, pour nous joindre à 416-946-7000. Et oui, Cannes 2014, le 67e festival de Cannes à la fête du cinéma, c'est parti, les polémiques aussi, qui donc chaque année va remporter la Palme d'Or. Vous pouvez nous envoyer vos messages à pot.pourri@sympathico.ca. Où en sont les films français, canadiens de la sélection officielle? Le cinéma mérite beaucoup d'attention car il reflète magnifiquement l'état du monde à travers ses créateurs. Cette année montre désarroi, interrogation et refuge des sphères plus privées ou plus anecdotiques. La Croisette a pris son mode festival depuis mercredi dernier avec de nombreux renforts de police visibles en attendant les stars qui fouleront tous les jours le fameux tapis rouge et les 24 marches menant à la grande salle de projection. Le film tant attendu, Welcome to New York, comme on vient de le citer dans les journaux avec Depardieu dans le rôle de DSK, est disponible depuis hier soir sur Internet. L'acteur très en forme a présenté son film hors compétition samedi à Cannes. L'ex-épouse de Dominique Strauss-Kahn, Anne Sinclair, a exprimé dimanche son dégoût pour le film Welcome to New York, inspiré de l'affaire du Sofitel, tout en indiquant qu'elle ne se pourvoirait pas en justice car elle vomit la saleté mais ne l'attaque pas. Et oui, la haute couture s'est invitée sur la Croisette avec beaucoup de style. Saint-Laurent, biopic sur le grand couturier français Yves Saint-Laurent, a fait mouche auprès des festivaliers samedi. 3 jeunes Québécois ont présenté leur court-métrage Petit Frère à la prestigieuse semaine de la critique du Festival de Cannes samedi après-midi. Et le premier film canadien de la compétition cannoise, La Suspense, The Captive d'Atom Egoyan, n'a pas créé une forte impression sur les festivaliers hier. D'ailleurs, plusieurs journalistes ont hué le film. Après la projection sur les réseaux sociaux, les avis étaient majoritairement défavorables. Sans plus tarder, madame, monsieur, je vous laisse avec Isabelle Chenu et Anthony Ravara de RFI au studio du Festival de Cannes. Bonne écoute.
Tous les cinémas du monde. Elisabeth Le Quéret, Sébastien Gédor.
Good evening. It's my honor to declare the 67th edition of the Cannes International Film Festival inaugurated.
Bonsoir. C'est un honneur de déclarer ouverte la 67e édition du Festival International du Film de Cannes.
Le réalisateur Alfonso Cuarón et l'actrice Chiara Mastroianni l'ont dit, le festival du film de Cannes s'est ouvert ce mercredi et c'est aussi un honneur pour nous de vous accueillir dans tous les cinémas du monde sur RFI, dans ce studio de RFI installé juste au-dessus d'une des plages de Cannes. Cannes, c'est Nicole Kidman, c'est Grâce de Monaco, mais c'est surtout l'occasion de voir des films du monde entier qu'ils figurent parmi les 18 films de la compétition officielle, qu'ils aient été retenus dans la section Un certain regard ou à la quinzaine des réalisateurs ou encore à la semaine de la critique. Les responsables de la semaine et de la quinzaine, Charles Tesson et Edouard Weintraub, viendront nous dire tout à l'heure ce qui a titillé leur curiosité parmi les centaines de films qu'ils ont vus cette année pour faire leur sélection. Et le réalisateur haïtien Jean Carénard, qui a ouvert la semaine de la critique avec un film hors norme, Fla, Faire l'amour, viendra aussi nous en parler tout à l'heure.
Mais avant cela, la guerre au Mali, vue par Abderrahmane Sissako, une bande de filles devant la caméra de Céline Sciamma et une chambre bleue dont Mathieu Amalric entretient le mystère. Tous les cinémas du monde, moteur.
Après les pas de danse du maître de cérémonie Lambert Wilson et de Nicole Kidman, le premier film projeté dans la compétition officielle ici à Cannes, Timbuktu, du réalisateur mauritanien Abderrahmane Sissako. C'est le seul film africain qui est en compétition officielle. Sissako filme son pays d'adoption, le Mali, au moment de l'invasion des djihadistes. Elisabeth, c'est un sujet difficile, c'est un film militant presque.
Oui, en tout cas, c'est un film très politique. À l'origine, il y a une image, celle de ce couple lapidé en juillet 2012 dans une petite ville du nord du Mali, lapidé parce qu'il n'était pas marié. Abderrahmane Sissako a été bouleversé par ces images. Il a ressenti le besoin de prendre sa caméra. Sauf que, au lieu de faire un documentaire, il a décidé d'en faire une fiction. Donc, à la fin de Timbuktu, eh bien, on verra ce couple qui se fait lapider.
Mais une ça, des c'est scènes tout, extrêmement dures.
Extrêmement fortes, mais ça, c'est tout à la fin du film. Et ce qu'on voit surtout, c'est la vie paisible, si tranquille de cette ville, des jeunes qui font de la musique, un couple de bergers avec leurs petites filles qui vivent au milieu du désert, un imam modéré qui tente d'expliquer, mais en vain, aux djihadistes que l'islam, ce n'est pas ce qu'ils croient. Et c'est une façon aussi pour Abderrahmane Sissako de montrer qu'il y a une grande différence entre les valeurs de l'islam et l'islamisme.
Salam alaikum.
Alaykoum salam. Je suis là. 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 Da tinji haa nda mar fajo o sibori
rehin ka danga ko jihad ko na
al jihad me yoro ka ta jahiru ne yoro ka ta jahiru yer koy hudura wala koy radio fat ka jitindika tumbutu ne barka ba ka goy dindise a goy ganda lakal nda sawab ana tinna mar fajo.
Et la grande force de Timbuktu, c'est que c'est un film qui, avant de nous montrer l'arrivée des djihadistes, nous fait vivre la grande sérénité de cette vie. On entend le timbre de cette voix si posée de l'imam dans cet extrait. Ces paysages de désert aussi.
Qui sont magnifiquement filmés.
Depuis toujours, c'est magnifiquement filmé, alors que c'est très très compliqué de filmer dans le désert. Ces visions presque bucoliques de troupeaux qui viennent s'abreuver au fleuve. Et voilà, donc toute cette vie qui va être troublée par l'arrivée des djihadistes en armes, qui obligent les femmes à se voiler, à porter des chaussettes, à porter des gants. Ces djihadistes qui interdisent le football, la musique, bref, qui font
ils interdisent le football alors qu'ils discutent des mérites du Barça et du Real. Il y a vraiment plein de scènes comme ça.
Voilà, et c'est ça la grande intelligence du film, c'est de montrer l'absurdité de cette situation jusqu'au bout. Évidemment, c'est des fans, vous le disiez, ce sont des fans de Zidane, mais dans le même temps, ils passent leur vie à confisquer des ballons de football, ou alors ils vont fumer en cachette alors que précisément, ils interdisent la cigarette dans la zone qu'ils occupe. Et la grande intelligence du film, justement, c'est à la fois de donner un visage à ces djihadistes, d'intégrer des éléments qui sont comiques, qui sont parfois même des éléments burlesques. Mais on sait qu'Abderrahmane Sissako, quand il était petit, aimait beaucoup voir les films de Chaplin. Donc
il y a une scène de match de foot sans ballon.
Voilà, et donc on sait très bien d'où ça vient. Et il intègre ces éléments de légèreté dans une situation qui est complètement, évidemment, tragique. Et ça, c'est la grande marque des réalisateurs, il faut le dire. Timbuktu d'Abderrahmane Sissako est un très grand film, plein d'humour, d'émotion, d'intelligence. Vous le disiez, Sébastien, d'une grande beauté visuelle. Et on espère vraiment tous qu'il sera en bonne place au palmarès.
Mmh. Parmi les autres films qui ont touché le public à Cannes cette semaine, il y a Bande de filles de Céline Sciamma, qui est notre première invitée dans tous les cinémas du monde sur RFI. Céline Sciamma est une surdouée de 34 ans, je crois qu'on peut le dire, Elisabeth. Elle a passé sur ses 34 dernières années, 3 années à la Fémis. Elle a été repérée ici à Cannes dès 2007 avec Naissance des pieuvres, un talent qui a ensuite été confirmé avec Tomboy.
Et Bande de filles, eh bien une nouvelle fois, c'est l'histoire d'une quête d'identité. Mariem, une jeune fille timide de la banlieue parisienne, s'affirme en rejoignant la bande de Philly, Adiatou et Lady, et ensemble elles vont se construire face aux garçons bien sûr, face aux autres filles et aussi face aux institutions.
Et des bandes de filles comme ça, des bandes de jeunes filles noires en banlieue parisienne, c'est un sujet jamais encore abordé au cinéma. J'ai demandé à Céline Sciamma comment elle avait eu l'idée de ce film.
En les croisant justement, en les croisant dans la rue, dans la vie, en étant assez impressionnée par leur style, par leur charisme, par leur façon d'être, voilà, j'ai eu tout de suite une espèce de fascination pour ces filles que j'ai eu envie de rencontrer, que j'ai eu envie de filmer.
Alors le film est porté par un casting de 4 jeunes filles qui n'étaient pas des professionnels à l'origine, et c'est elles qui donnent vraiment toute son énergie et sa fraîcheur au film. Comment est-ce que vous les avez rencontrées ?
On a fait un casting sauvage qui a duré 3 mois pour aller les chercher là où elles étaient, donc dans les centres commerciaux, chez H&M, à la Foire du Trône, dans les concerts de Rihanna, dans la rue. Et à l'issue de ce casting assez fleuve, où j'ai rencontré beaucoup de jeunes filles, 4 interprètes se sont détachées du lot.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous n'aviez pas trouvé d'actrice, j'allais dire sur le marché, vous me pardonnerez l'expression, capable de tenir ces rôles de jeunes filles qui vivent en banlieue, qui sont sous la pression de leurs frères ou de leur quartier?
Sur le marché, il n'y en a pas, tout simplement. Enfin, je cherche des interprètes qui sont jeunes. Donc, de toute façon, généralement, j'ai tendance à aller vers des non-professionnels parce que j'ai cette exigence de l'âge et que quand on est aussi jeune, on débute forcément. Mais par ailleurs, sur le marché, il n'y a pas de jeunes actrices noires en France qui soient dans des agences, qui soient identifiées. Donc, c'est pas vraiment un refus de la notoriété et du professionnalisme, c'est du pragmatisme aussi.
Mais ça nous dit quelque chose aussi du cinéma français aujourd'hui, enfin des acteurs qui sont sur le marché du cinéma français aujourd'hui.
Oui, et le film, je l'ai aussi pensé comme cela. C'était des absentes et je me suis dit qu'il y avait un geste politique à les représenter, une réelle nécessité. Et c'est ça que je cherche quand je fais des films. Je cherche ce qui est une réelle nécessité à les faire, un désir fort qui m'anime. Et l'idée de les rencontrer et de les représenter quasiment pour la première fois, quoi. C'est évidemment partie du projet.
Après Naissance des pieuvres et puis Tomboy, la bande de filles, c'est encore l'histoire d'une identité qui se construit. Hein. Mariem, elle va se construire avec sa bande, elle se construit en opposition aux garçons, à son frère, aux institutions. C'est la construction encore d'une identité.
Oui, c'est la construction d'une identité et qui passe par diverses identités qu'elle endosse, comme pour les essayer. Donc ça peut être une identité féminine et puis finalement une identité plus virile. Et le film est construit comme ça, en épisodes, en chapitres, où on la voit essayer de vivre sa jeunesse sous plusieurs formes.
Elle a essayé le gang de filles, elle a aussi essayé la bande de garçons, on va dire. Et on la voit aussi quand elle intègre ce gang de garçons, parce que là on est plus dans la délinquance quand même. Elle prend aussi une identité de garçon, elle coupe ses cheveux, elle compresse ses seins pour qu'on les voit moins. Là, il y a vraiment la construction d'une identité sexuelle, j'allais dire même.
Oui, c'est une des identités qu'elle revêt, effectivement, sous la pression du féminin. Ça peut être soit d'être excessivement féminine, soit la pression du féminin, ça peut être aussi d'annuler toute forme de féminité. Et je pense que c'est des problématiques assez universelles sur les constructions d'identité féminine qui, là, s'incarnent chez ces jeunes filles, mais pour moi, qui, dès le départ, était liée au récit d'initiation classique, même. Et il y avait l'idée, comme ça, de renouveler le récit de jeunesse à travers ce précipité contemporain qu'elles étaient.
C'est un récit de jeunesse pour vous, bande de filles, vous l'avez vu comme ça?
Oui, c'est un récit d'initiation, une éducation sentimentale, une éducation amicale avec ces jeunes filles d'aujourd'hui.
On peut dire aussi que c'est un film sur le pouvoir, parce qu'au début, Mariem, elle est timide, elle est réservée face aux garçons, et puis plus tard, c'est elle qui va dire « déshabille-toi » à son petit copain. Et là, elle prend le pouvoir aussi.
Oui, c'est un film sur la conquête de sa propre puissance, sur l'ivresse de sa propre puissance aussi, sur comment la violence nous permet aussi d'être conquérants, comment il y a des colères qui sont saines, et effectivement sur le rapport au pouvoir, et à l'insoumission, à une forme de révolte, tout cela étant assez intime. Voilà.
Il est où le rêve? À un moment, on pose la question à la fin du film et on ne sait pas ce que Mariem va devenir, encore une fois, entre sa famille, ses bandes, etc. Il est où le rêve aujourd'hui, Céline Sciamma?
Moi, je crois que le rêve, il est chez ces jeunes filles. Elles, je ne sais pas si on leur propose des rêves, mais elles, en tout cas, elles sont une réelle proposition. C'est un vivier. Voilà, elles ont du talent. Le film, je pense, montre qu'elles ont du talent. Elles ont du talent pour le cinéma, certes, mais c'est anecdotique, ça. Elles ont du talent pour la vie. Moi, c'est une rencontre, c'est des rencontres qui me font rêver. Et j'espère que le film va rencontrer son public et qu'elles vont faire rêver le public, parce que le rêve, c'est pas celui qu'on leur propose, le rêve, c'est celui qu'elles nous proposent.
Et c'est un film sur les corps aussi, hein, comme Naissance des pieuvres, comme Tomboy. Vous avez vraiment un réel plaisir et une façon unique de filmer ces corps-là de jeunes filles, comme vous le faisiez avant dans Tomboy ou dans Naissance des pieuvres. C'est aussi ça qui vous a intéressé chez ces quatre jeunes filles?
Dans le portrait, pour moi en tout cas, au cinéma, dans le fait de faire des portraits de jeunes filles, il y a l'idée aussi de chroniquer leur physique, leur corps, leur sensualité. Il y a beaucoup de danse dans le film, elles expriment beaucoup de choses par leur corps. Et c'est vrai que pour moi, c'est toujours un enjeu de mise en scène très réjouissant.
Dans Bande de filles, Mariem, Lady, Adiatou et Philly, elles rêvent sur des airs de R&B. Et il y a notamment une séquence magnifique dans une chambre d'hôtel où elles dansent sur Diamonds, le tube de Rihanna. Vous avez dû batailler longtemps pour obtenir le droit d'utiliser ce titre dans votre film ?
Longtemps, en tout cas, ça m'a semblé long, parce que il se trouve que quand j'ai tourné la séquence, j'étais persuadée d'avoir les droits, parce qu'évidemment, sinon je ne l'aurais pas tourné, parce que c'était quand même une entreprise assez vaniteuse, sinon je pensais que j'allais les obtenir. Et il se trouve qu'en réalité, je ne les avais pas, parce que le management de Rihanna n'avait pas donné son autorisation, et donc à l'épreuve de la séquence, c'est-à-dire que j'ai envoyé la séquence à l'entourage de Rihanna, et c'est en voyant la scène qu'ils ont accepté, ce qui était une source de grande joie et de grande fierté, parce que c'est quand même les inventeurs du cool aujourd'hui, ce sont eux, et ils ont dit it's cool.
Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Fine light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star, I see a vision. I'm alive, we're like diamonds in the sky. I knew there would be from one right away. Oh, right away. At first sight I felt the energy of sunrise.
Vous êtes sur RFI et c'est tous les cinémas du monde depuis notre studio installé au pavillon des cinémas du monde à Cannes. C'était Diamonds, le tube de Rihanna qui donne une sacrée pêche au film Bande de filles de Céline Sciamma, présenté en ouverture de la quinzaine des réalisateurs.
À quoi tu penses ?
À toi ?
Qu'est-ce que tu penses ?
Que j'ai eu la chance de te rencontrer.
Atmosphère beaucoup plus intimiste et plus mystérieuse aussi, comme on l'entend dans cet extrait, avec la chambre bleue qui a fait l'ouverture d'un certain regard.
Et c'est Mathieu Amalric, notre deuxième invité dans tous les cinémas du monde sur RFI, qui signe l'adaptation de ce roman de Georges Simenon, l'un des maîtres du polar français. Dans ce film, Elisabeth, le piège se referme vraiment sur Julien. Il est pris dans une passion adultère, Julien. Il va être accusé d'avoir tué le mari de sa maîtresse et sa propre épouse.
Isabelle Chenu a demandé à Mathieu Amalric pourquoi il avait adapté ce roman à la fois charnel et glacé.
En lisant le livre, c'est le chaud et le froid qui m'attiraient. Des phrases comme « Je ne savais pas qu'elle était comme ça, je la prenais pour une femme froide, une femme hautaine, une statue », c'est des choses comme ça qui m'ont attrapé. Et ce miracle, cette chose assez difficile à nommer, et qu'on va lui obliger à mettre des mots dessus, oui, de la perte de tout, d'être hors les lois, hors le temps, deux corps qui s'attirent et plus rien n'existe. Et...
D'être presque dépossédé de soi-même.
Voilà, ah ben, vous voyez, ça aussi, ça c'est un mot, je m'étais dit, c'est un homme possédé et dépossédé. Voilà.
Comment vous avez abordé le texte de Georges Simenon ? Parce qu'en général, ce sont des romans confessions.
Le livre est comme ça, c'est un des rares romans de Simenon qui n'a pas une structure linéaire, mais qui est comme un rebours, où... Il y a ce plaisir de... C'est presque Adam et Ève dans une chambre avant le péché. Qu'est-ce qui s'est passé ? On comprend qu'il a été arrêté, mais on ne sait pas qui est mort. Et on ne sait pas qui a tué. Et on va le découvrir peu à peu. Donc il y avait immédiatement cette structure avec un double temps, le temps présent et puis le temps de l'enquête après coup. Et ça, avec Stéphanie Cléo, c'est elle qui a commencé à adapter le roman. Elle a tout de suite juste extrait que les dialogues en enlevant toute indication de lieu, de scène, etc. Et je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être quelque chose que pouvait exalter le cinéma dans cette manière qu'avait le son et l'image de se mordre, de se chevaucher.
Et alors Stéphanie Cléo, co-scénariste de La Chambre Bleue, Mathieu Amalric, c'est aussi votre compagne à la ville et elle joue le rôle de l'amante, c'est un film de famille.
Voilà, d'une famille réinventée, puisque c'est un couple qui se dit, ben, tu vas jouer mon amant et puis tu vas jouer ma maîtresse, voilà. Comment on en est arrivé à ça? C'est peut-être parce qu'on l'a écrit ensemble et que tout d'un coup, des phrases très troublantes qui étaient... Parce que tous les dialogues du film viennent vraiment du livre. Quand elle lui demande « Les brunes te font peur ?» Voilà, Stéphanie est brune. Voilà, j'avais des espèces de visions, oui. Mm-hmm.
Léa Drucker joue l'épouse dans La Chambre Bleue. Une épouse excessivement compassionnelle. Elle en devient presque effrayante un petit peu.
Ah oui. Le roman, on n'est que dans la tête de cet homme. On n'est jamais dans le point de vue des deux autres femmes. Jamais. Donc il les délire. Et il va délirer le silence de sa femme, qui est terrifiant, presque. Il aurait suffi qu'elle dise un mot, il lui demanderait presque de le libérer de cette passion. Il aurait suffi qu'elle dise un mot, mais elle dit rien. Jamais. Et on n'est jamais dans son point de vue à elle. Donc il fallait une actrice aussi intelligente et qui a un sens de l'humour et complice pour accepter de jouer cette présence... incarné comme ça.
Mathieu Amalric, dans les premières scènes de La Chambre Bleue, on est dans la chambre, dans ce lieu fermé, dans un huis clos, un couple nu sur un lit, on est dans un érotisme assumé. Est-ce que La Chambre Bleue, c'est aussi, on a dit une histoire de passion, mais est-ce que c'est aussi une histoire d'obsession sexuelle?
Oui, c'est ça. Passion, c'est pour ça que j'arrive pas à dire que c'est un couple amoureux, justement. Sinon, on n'arrête pas de se demander, mais... Est-ce qu'il l'aimait? Non, c'est pas ça. C'est cet état animal entre deux corps qui fait que j'avais presque l'impression que c'était un homme qui n'en revenait pas.
Vous employez le terme un homme qui n'en revenait pas, parce que finalement, il n'en revient pas de cette
c'est
passion.
Ça. C'est ça.
Un aller sans
oui.
retour.
Oui.
J'ai trouvé aussi que c'était un film assez sophistiqué. Qu'est-ce que vous en pensez?
Méticuleux, comme une enquête policière. Le policier vous oblige à être extrêmement précis sur les détails et sur la vérité des faits. On a fait un vrai dossier de judiciaire, par exemple, complet, entièrement. On a travaillé avec la police scientifique, avec des juges d'instruction, avec des avocats, tout.
Alors le spectateur, lui, il est en train d'assembler un puzzle.
C'est ça.
Des petits morceaux lui sont donnés et il doit reconstituer un tout.
C'est ça.
Ça fait le charme du film aussi.
J'espère. En tout cas, moi, c'était mon... plaisir, parce qu'on est souvent que spectateur quand on fait un film, mais ça c'était vraiment, c'est peut-être pour ça que le film est plus que sophistiqué, parce que j'ai essayé aussi qu'il soit extrêmement simple, vraiment, voilà.
Merci Mathieu Amalric.
Merci.
L'acteur et cinéaste Mathieu Amalric qui parlait de son nouveau film La Chambre Bleue au micro d'Isabelle Chenu.
RFI, tous les cinémas du monde, c'est l'heure de l'entracte et pour ne rien vous cacher, c'est même l'heure du cocktail sur le stand voisin. Quoi qu'il arrive, Elisabeth Le Carré, Sébastien Gédor, Fanny Renard, Denis Chastel, on vous donne rendez-vous dans 3 minutes pour la suite de l'émission avec 3 invités. Jean Carena, réalisateur haïtien de Fla, Faire l'amour, c'est son deuxième film. Édouard Weintraub, délégué général de la quinzaine des réalisateurs et Charles Tesson, délégué général de la semaine de la critique. Comment va le monde et comment va le cinéma? On en reparle dans 3 minutes.
Yeah.
vous, mesdames et messieurs, vous écoutez Potpourri Show, CUT 89,5 FM. Je vous rappelle que la semaine prochaine, nous allons accueillir avec une grande joie Lua Shine, cette danseuse chorégraphe torontoise qui présente la première mondiale de Cosmopolitan, un spectacle de danse africaine contemporaine et traditionnelle avec percussion et musique live. Nous avons une paire de billets pour vous. Ici, si vous nous appelez au 416-946-7000 pour la présentation du 29 mai prochain à 20h. Et puis, nous avons reçu un message à Morgane de Genève. Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent de Genève. Ça nous donne le goût d'y aller cet été. Eh ben oui, il y a eu un salon du livre de Genève qui vient de fermer ses portes sur 2014. Une fois encore, il y a donné une grande visibilité à la littérature africaine. Et le prix Amadou Kourouma, qui tient toutes ses promesses, a couronné un jeune auteur camerounais. Et dimanche prochain, nous recevrons Méfieux Meidou Hermine de Genève, qui nous présentera son dernier ouvrage, qui traite de la migration et de santé mentale. Par le passé, elle a eu l'occasion d'ailleurs de passer plusieurs fois à notre antenne, et elle nous dit que vous faites du beau travail, je vous écoute régulièrement et je vous appuie. Dans quelques minutes, nous allons accueillir une invitée qui nous attend en France, qui nous présente 14 pièces exceptionnelles, artistiquement diagnostiquées, dévoilées dans Looks Inside, à partir du 22 mai au Holt Renfrew, ce grand magasin prestigieux à Yorkdale. Laurence Picot sera des nôtres, une collaboration du Consulat Général de France. Vous écoutez Potpourri sur CUT 89,5 FM, le magazine de la francophonie, en partenariat avec le département d'études françaises, Université de Toronto, le journal L'Express de Toronto et Radio France Internationale.
The Lula World Festival returns to the Lula Lounge beginning May 18th through to June 7th. Lula World, featuring artists from around the globe with the emphasis on local and international guests with cultural roots in Mexico, Colombia, Cuba, Dominican Republic, Puerto Rico, Haiti, Trinidad, Brazil, and more. Kicking off Lula World on Sunday, May 18th is Kobo Town, presented in part by CIUT, marking the 25th anniversary of Global Rhythms. The Vanunu Ethno Jazz Ensemble follows on Tuesday, May 20th, and Ron Davis on Wednesday, May 21st. Willie Torres, Dominic Mancuso, Hilario Duran, Martha Gonzalez with Kathy Conpan, and special guest Kike Escamilla, and Roberto Okepinti with special guest The Griffin Trio, all follow. Be sure to keep on listening to CIUT for your chance to win Lula World tickets. Lula World, beginning May 18th. Go to lula.ca for additional information.
Join CIUT 89.5 FM at Steve's Music on May 24th for a special live broadcast presentation featuring live performances from Jessica Mondello, Eric Moore, Mina Hardy, Dave Matthews, and Carmen Toth. The CIUT grand prize draws will also happen live on site during the broadcast, so if you donate before May 23rd, come down because you could be a winner. There will also be free giveaways on site to people who stop by. CIUT 89.5 FM live at Steve's Music, 415 Queen Street West on May 24th from 3 to 6 p.m. CIUT 89.5 FM, the sound of your city, powered by Steve's.
Right here, right now, every day.
Right here, right now.
CIUT 89.5, the sound of your city.
Sur quelle planète suis-je tombé?
La planète Terre.
Bonjour.
RFI.
RFI, on en fait tout un monde.
Où se déroulera la prochaine Coupe du Monde de soccer? 416-946-7000. Vous courez la chance de gagner un repas pour deux au restaurant La Créole. Voyage gastronomique dans les tropiques garanti. Où se déroulera la prochaine Coupe du Monde de soccer? 416-946-7000.
c'est le football.
CUT 89,5 FM, Popouri Show, 4169.
Toute la diversité du monde.
What I say, this is an international connection for the sounds of Dan Akil and my child body to sing along with that in one compound to say, yeah. No regrets at all, baby. We have no fear cause we're right on here. I will be there. Tell them what you got to say, Dan Akil. Tell them.
No.
Yes, you know, oh,
je n'ai plus besoin de balayer les amours.
Yeah.
Avec leur trémolo.
Each and every day, I can continue.
Balayer pour toujours.
Swinging right along the way.
Je repars à zéro.
And I have no regrets, I love you, baby.
No, rien de rien.
I'll be there for you.
No, je ne regrette rien.
Exactly how I know it's gonna be, baby. You I love the most and the closest I will tell you. But I have no regrets for loving you. Cause I see that you're interested in me, baby. And I always put my interest in you, yeah. Yeah, what I say is I never make you blue, never turn my back on you. Never, never do that in any way. I will tell you, say no regrets. I may say no, no regrets. But I say that, I say it. Over and over and over again. Yeah, baby, stick them out of bed and I'll tell you when I wanna see you again. So I said, never would I ever, never, never, never. Never would I ever, ever, ever do that again, baby. Turn my back on you, I never make you blue without what you say. No, 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 no regret. Yeah, none at all, I tell you. I give you my respect and you give me your respect. And that's life and direct.
Français, française, no regrets, non ce n'est rien de Edith Piaf en reprise, remix sur CUT 89,5 FM. C'est bien ça Morgane de voir que les chansons françaises sont reprises comme ça partout à travers le monde, même en Chine, au Japon, dans les Antilles. 14 pièces exceptionnelles, artistiquement diagnostiquées, dévoilées dans Lux Inside à partir du 22 mai au Holt Renfrew Yorkdale. Une collaboration du Consulat Général de France. Après Paris, Macao, Buenos Aires, Rio et Sao Paulo, l'exposition Lux Inside, les traces de l'homme, voyage photographique au cœur des secrets du luxe arrive enfin au Canada pour une tournée de plusieurs mois. Et l'exposition se veut un voyage dans le temps et l'espace espace qui met en lumière la beauté de la connaissance et de l'innovation, tout autant que le potentiel économique, culturel et social du luxe qu'il s'agit ici de défendre selon ses valeurs. Alors, je vous rappelle, cette exposition sera présentée par Holt Renfrew. L'exposition s'installera successivement dans les magasins de Toronto, Yorkdale, du 22 mai au 16 juin, à Calgary, si vous nous écoutez sur Internet, du 3 juillet au 4 août, et de retour à Toronto, à la rue Bloor, pas loin de Yonge, du 9 au 29 septembre. Montréal, si vous nous écoutez, eh oui, l'exposition sera aussi à Montréal en 2015, du 1er au 28 février, si cela vous tente. Allez sur le site d'ailleurs pour avoir plus de détails et vous familiariser un peu avec cette exposition extraordinaire, www.luxinsider.com. Notre prochaine invitée en direct de France qui nous attend au bout du fil, elle est à l'Institut français, journaliste, spécialiste en communication pour plusieurs grandes boîtes et grandes sociétés françaises et internationales, notamment Air France, magazine spécialisé dans les industries de luxe. Elle a collaboré comme journaliste au journal Le Monde, le magazine Elle, Géo et Paris Match. Elle a enseigné en master gestion des industries du luxe, créé le collectif Art Science Lux Inside. Sans plus tarder, mesdames, messieurs, accueillons Laurence Picot, commissaire de l'exposition Lux Inside. Oui, madame, monsieur, là, nous atterrissons à Paris et nous sommes en compagnie avec Laurence Picot, commissaire de l'exposition Lux Inside, qui sera bientôt à Toronto. Bonjour, Laurence.
Bonjour, merci pour cette très belle présentation, très complète. Hein.
Cela nous fait plaisir. Alors, c'est pas votre première visite à Toronto, oui?
Si, c'était ma première visite à Toronto, ce qui est étonnant parce qu'en plus j'ai vécu 8 ans au Canada et je n'étais pas allée à Toronto.
Et vous connaissez surtout le Québec, je pense, hein?
Oui, tout à fait, le Québec.
Alors, vous avez quand même parcours de profession extraordinaire et en plus on voit ça que vous aimez bien le voyage, la découverte. Oui. J'aimerais ça qu'on parle un petit peu de votre parcours assez riche en expériences diverses. Comment avez-vous atterri dans ce projet que vous pilotez maintenant?
Eh bien, en fait, ce projet est juste, disons, le fruit de 20 ans d'expérience dans un univers qui est celui des industries du luxe, dans lequel j'ai fait beaucoup de choses. Et en fait, j'ai toujours tourné à l'intérieur de ce milieu. Et je me suis systématiquement, depuis le tout début, posé une même question à laquelle j'essayais de répondre. Et c'était la question, qu'est-ce qu'est le luxe? Et pourquoi? Parce que les Français sont quand même... on vit dans un pays où on est environné de luxe sans même s'en rendre compte. Et moi, tout de suite, ce qui m'intéressait, c'était pas vraiment ce qu'on voyait, mais ce qu'on ne voyait pas. Je voulais comprendre ce que c'était ce luxe. D'autant plus que nous étions pendant très longtemps le seul pays au monde à l'enseigner.
C'est-à-dire
enseigner un concept qui est complètement psychologique ou philosophique. C'est quand même très étonnant.
Et d'ailleurs, les Américains, plusieurs autres nationalités du monde entier ont eu cet intérêt d'aller découvrir ce luxe de France, n'est-ce pas?
Bah oui. En fait, on a inventé, enfin aujourd'hui je peux en parler parce que j'ai mené vraiment 20 ans d'investigation et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi d'être journaliste. C'était pour pouvoir répondre à cette question dans les meilleures conditions, c'est-à-dire me faire ouvrir le maximum de portes, dont celles qui restent systématiquement fermées. Voilà. Et donc, en travaillant pour des titres comme Le Monde, ou Paris Match, ou Elle, ou Vogue, hein, qui n'a pas été cité...
Vogue, évidemment, Homme, Vogue, d'ailleurs.
Oui, tout à fait. Et bien, oui, Vogue, Homme. Eh bien, évidemment, les portes s'ouvrent un peu plus facilement que pour une personne lambda, pour tout vous dire. Donc, ce que vous allez découvrir à Toronto, c'est une expérience que j'ai menée en 2010. En fait, on est arrivé à avoir un premier résultat, et on avait mis 2 ans avec un collectif Art Science que j'ai réuni autour de cette idée qui était de vouloir montrer au public ce qui se cachait à l'intérieur, les secrets en fait du luxe.
Ah ouais.
Bah, un objet de luxe, le principe même du luxe, c'est qu'on ne voit jamais le travail qui est effectué, c'est une forme de politesse, et on ne voit jamais de l'extérieur le travail. Et en fait, ce qui fait que c'est un objet de luxe, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Et moi, j'ai fait, j'ai eu pas mal de difficultés pour arriver à connaître tout ce qui se cachait à l'intérieur. C'est forcément, ça fait partie des secrets que les maisons de luxe préservent avec. Vous imaginez.
Ouais.
Mais il me semblait qu'il était très important de revenir à l'origine de ce qu'était le luxe, en particulier aujourd'hui où en fait on utilise ce mot à peu près à toutes les sauces et on ne sait pas vraiment à quoi cela correspond.
Mais est-ce que c'était facile pour vous d'aller que ces gens dévoilent leurs secrets à vous justement?
Non.
Parce que nous ici, on ne veut jamais dévoiler le secret de montage de nos émissions. Hein. C'est caché, caché, secret.
C'est à peu près ça. Non, mais c'est exactement ça. C'est très difficile.
Ouais, ouais, ouais.
Et je vous cache pas que si j'ai mis les 20 ans, c'est parce que ça m'a pris 20 ans. Et en 20 ans, je n'ai pu décrypter que 14 industries du luxe sur une cinquantaine qui existent.
Mais vous n'avez pas changé, vous savez, parce que quand je regarde les photos avant 20 ans et maintenant, vous êtes toujours la même personne. Hein.
C'est-à-dire, je me tiens vivante avec cette passion, vous savez, c'est toujours
alors,
la même chose.
Il y a 14 objets icônes du luxe. Et donc, parlez-nous un peu comment l'auditeur, ces internautes qui nous écoutent, qui seront peut-être, que vous allez peut-être rencontrer à Toronto, je l'espère.
Moi aussi.
Quelle est, disons, la surprise qui les attend?
Eh bien, d'avoir les pouvoirs d'un super-héros des comics de Marvel, puisqu'ils vont pouvoir voir et l'objet extérieur et ce qui se cache à l'intérieur.
Ah.
Et donc, pour y parvenir, en fait, on a mené une expérience à l'hôpital et à la faculté de médecine à Paris pour pouvoir scanner dans un scanner médical assez particulier une série d'objets que j'avais sélectionnés pour leur grande force, pour chacun pouvoir représenter une industrie du luxe. Donc ils vont avoir la surprise de voir ce qui se cache à l'intérieur d'une selle Hermès, ou d'escarpins ou boutins, ou d'une guitare électrique de chez Gibson, ou d'un briquet Dupont, du cristal Saint-Louis, d'un appareil photo Leica. Vous avez une série de 14 objets qui sont tous avec des histoires fascinantes. C'est une des caractéristiques des objets icônes, c'est qu'en général, ils sont porteurs d'une histoire unique. Et on va voir à l'intérieur, en fait, des tout petits détails qui sont extrêmement rares et qui font que cet objet justifie le fait que ce soit une icône du luxe de par ces petits détails, qui sont en fait souvent un brevet d'invention ou un savoir-faire qui a réussi à être préservé au long des siècles. Voilà.
Et vous dites que le fil de votre expérience vous a amené à vous spécialiser dans les industries du luxe et en montrer la face cachée. 350 ans d'histoire passionnante, c'est quand même quelque chose.
Ben oui, parce que en fait, les industries du luxe ont été créées par Louis XIV et Colbert en 1665. Et donc, il m'a fallu remonter, en fait, vous voyez à peu près le parcours que j'ai dû faire, moi, de remonter petit à petit, décennie par décennie, jusqu'à me rendre compte qu'il fallait que je remonte un siècle, puis un deuxième siècle, puis un troisième siècle, et pour en arriver, en fait, à Louis XIV. Et comprendre que c'est à ce moment-là qu'on a changé complètement notre façon d'appréhender le luxe, nous les Français, puisqu'on passait d'un luxe pièce unique, qui existait ailleurs qu'en France, hein, d'ailleurs, faut pas non plus faire cocorico de façon inutile, ça existait dans tous les pays du monde, le luxe, qui correspondait en fait au meilleur de ce que l'homme peut faire à un instant T, et qui était en général l'apanage des rois, des empereurs ou des sultans. Mais nous, les Français, on a inventé quelque chose d'étonnant, c'est qu'on a eu l'envie de mettre côte à côte le mot industrie et le mot luxe, c'est-à-dire reproduire en quantité pour le mot industrie et luxe pièce unique. C'est un non-sens au départ.
Les industries du luxe.
Exactement. Et c'est ça que nous avons inventé et que tous les pays du monde se sont inspirés de ce concept pour le reproduire dans leur propre pays.
Alors ce qu'il faut aussi expliquer, c'est que ça
inclut beaucoup de talents, des manufacturiers, des innombrables sous-traitants et porteuses d'emplois qui garantit quand même une certaine, un certain équilibre social et économique aussi, n'est-ce pas ?
Alors ça, c'est justement le propos, c'est qu'on ne cesse de nous dire que nous sommes en phase de crise, voilà. Que nous avons un problème d'emploi. Mais si tous les objets de luxe étaient fabriqués selon les règles de l'art, en tout cas en France, nous n'aurions absolument aucun souci. Donc moi, je voulais remettre très en lumière ce côté-là, parce que vous avez parlé, on pense souvent au niveau du luxe au savoir-faire manuel. Mais on oublie que dans chaque objet du luxe, il y a une partie qui est de l'ingénierie. Et entre autres, il y a énormément d'ingénieurs, que ce soit chimiste, très facile à identifier pour le parfum, par exemple. Vous savez qu'un nez, en fait, à l'origine, c'est un biologiste, c'est un ingénieur en biologie. Ou pour le vent. C'est beaucoup plus difficile d'imaginer qu'on a des ingénieurs à l'intérieur des escarpins, par exemple. Pourtant, toute la structure interne d'un escarpin est faite avec des matériaux qui viennent de l'industrie aéronautique. Parce qu'il n'existe aucun autre matériau qui pourrait supporter le poids moyen d'une femme sur une si petite surface, ça s'écraserait. Donc on utilise, en fait, on fait travailler des corps de métier qu'on n'imagine pas du tout. En fait, pour tout vous dire, à force de chercher, j'ai fini par découvrir qu'on faisait travailler tous les corps de métier avec les industries du luxe.
On voit bien que vous êtes très passionné de ce domaine. Alors après Paris, Macao, Buenos Aires, Rio, Sao Paulo...
Le Grand Palais à Paris.
Ah ouais. Lux Inside, madame, monsieur, sur les traces de l'homme, voyage photographique au cœur des secrets du luxe, qui arrive à Toronto, chez nous, dans ces grands magasins prestigieux que notre DJ aime aller visiter de temps en temps. Holt Renfrew.
Une petite chose.
Oui.
Il va y avoir une conférence, en fait, dans laquelle je vais raconter justement l'histoire un peu plus détaillée que ce que je suis en train de faire avec vous, à l'Alliance française de Toronto, qui vient juste d'inaugurer son nouveau théâtre, ce sera le 28 mai.
Très bien, alors on en parlera, et puis peut-être on aura l'occasion de vous rencontrer personnellement.
Puisque je viens pour accompagner cette exposition, je viens rencontrer mes camarades canadiens, français et franco-canadiens.
Alors là, vous avez eu quand même des centaines d'amis, des auditeurs là qui nous écoutent.
J'espère bien.
Ah oui, ça fait plaisir. www.luxinside.com, madame, monsieur, Toronto, Yorkdale, à ne pas rater du 22 mai jusqu'au 16 juin, Calgary du 3 juillet jusqu'au 4 août, Toronto de retour à la rue Bloor Street, ce grand magasin dans le quartier des affaires ici à Toronto, au centre-ville de Toronto, du 9 au 29 septembre, et pour nos amis internautes à Montréal, du 1er au 28 février 2015. Alors, vous avez quand même un programme très achalandé, là, on voit.
C'est tant mieux. Ça fait diffuser le message et puis permettre aux gens de faire un voyage qui, moi, m'a pris 20 ans en très peu de temps. Ouais. Donc, tant mieux.
Nous remercions beaucoup vos amis du Consulat Général de France de Toronto qui nous écoutent en ce moment. Alors,
bien sûr.
Alors je vous dis mot de comprendre et puis bon voyage et bienvenue à Toronto.
Merci beaucoup, à très vite.
Oh, Laurence Picot, madame, monsieur, Lux Inside.
It means that it's so cool. Oh, c'est si bon. So I say it to you. Like the French people do, because it's so good. Every word, every sigh, every kiss, dear, leads to only one thought, and it's this, dear.
C'est si bon. Mais oui, c'est si bon, madame, monsieur. Quelle belle aventure. Laurence Picot, merci mille fois. Merci à tous nos amis qui nous ont aidés à préparer et monter cette émission. Entre autres, le consulat général de France, Laurence, qui est l'attaché de presse. Si tu nous écoutes, un gros merci. Le professeur Eddie Bouraoui, merci pour vos textes. Morgane, merci d'être là. Et DJ Devera, comment ne pas vous dire merci. Gabriel Loche de Franco Queer. Radio France Internationale, le journal Express de Toronto et tous nos amis qui nous aident de près ou de loin, qui nous envoyaient des messages très gentils cette semaine et tout au long de cette émission. La semaine prochaine, ne pas rater la grande gagnante de poésie, poème sur la fête des mères. Nous allons recevoir Unleash Legacies et la grande gagnante, la lauréate de ce concours de poésie à ne pas rater. Ici Eric Adel, je vous donne rendez-vous très prochainement, dimanche prochain. Salut, au revoir, ciao.